Alors, le message de ce matin, pour les grands, s'intitule « Pousser ou appeler ». On va lire le texte qui est dans Exode, qui est la suite de l'histoire. Mais d'abord, on va prier encore. Éternel, ouvre les oreilles de notre cœur, bénis-nous, guide-nous par ton Saint-Esprit et que chacun puisse apprendre quelque chose. Rends-nous attentifs au nom de Christ. Amen. On va lire le texte qui est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, la naissance de Moïse. Voici comment l'histoire se poursuit. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne. Et il tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu parles comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Reuel, leur père, il demanda, « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et fait boire le troupeau. Reuel dit aux filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car, dit-il, « Je suis en exil dans un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu, avec Isaac et Jacob. Gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro. Reuel et Jéthro, c'est la même personne. C'est le prêtre de Madian. Et Moïse conduisit le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et il vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Que l'Éternel bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Pousser ou appeler? Que signifie cette question? C'est pas évident et ça fait réfléchir. On va essayer d'expliquer. On va voir que, en fait, la question est importante, même pour nous aujourd'hui, même pour chacun de nous, chrétiens ou personnes qui peut-être s'approche de la grosse question, est-ce que je veux moi aussi devenir chrétien? Alors, une question qui est rattachée, c'est « Es-tu une personne poussée ou appelée? » Et pour illustrer, on va considérer la vie d'un personnage dont on a parlé tantôt, Robert Jaffré. Robert Jaffré a vécu de 1873 à 1945. Et c'était un jeune homme qui a grandi, si j'ai bien compris, en Ontario. Et il avait une belle vie tracée devant lui, ce jeune homme. Son papa était très riche. Son papa était sénateur dans le gouvernement canadien. Et il était le propriétaire d'un journal canadien très important. Pas le Globe and Mail, mais le journal qui était le prédécesseur du Globe and Mail, qui est aujourd'hui le plus gros journal canadien. Donc, quelqu'un d'important, quelqu'un de connu, quelqu'un de riche. Et il était prévu que Robert, son fils, devienne l'héritier de l'empire médiatique de son père. À 16 ans, le jeune Robert fait une rencontre avec Jésus-Christ. Donc, il entend le message que Jésus est mort pour lui, que Jésus veut sa vie, son cœur, comme on a chanté ce matin. Et il a donné son cœur à Jésus. Il a vécu une transformation et un appel à la mission. La mission pour aller, faire connaître Jésus à d'autres peuples, à d'autres personnes. Il en a parlé à son père, et son père n'était pas content du tout. Et surtout, cette idée de devenir missionnaire, son père avait d'autres plans pour lui. Et donc, il y a eu une sorte de rupture entre lui et son père. Et Robert, lui, est convaincu de son appel pour Jésus, pour l'œuvre de Jésus, et il se prépare pour le service et la mission, et il part en Asie. Et il va avoir un rôle important dans le développement de l'Église chrétienne en Chine et l'avancement de l'Évangile en Chine. Mais en fait, on va voir, il va aller dans d'autres pays également. Et c'est quelqu'un qui a utilisé les richesses de son éducation, de sa culture familiale, pour aider dans sa mission, pour ouvrir des portes qui se fermaient, pour empêcher qu'elles se ferment et ainsi de suite. Il paraît que c'était un grand diplomate, Robert Jaffré, et il a réussi à ouvrir des portes pour la mission, en fait, de l'Alliance chrétienne et missionnaire, parce qu'il faisait partie de notre famille d'Église. La Deuxième Guerre mondiale éclate en 1939 et les Japonais entrent en guerre du côté de l'Allemagne, mais ils avaient en fait leurs propres ambitions d'un empire plus grand autour du bassin du Pacifique. Et le papa de Robert, qui avait peur pour sa sécurité, lui dit « Reviens au Canada, Robert, sors de cette zone de guerre et de danger, et il y a un poste près de la famille dans l'empire médiatique de la famille. » Et tu seras bien payé, tu seras en sécurité. Robert a continué à écouter l'appel de Dieu sur sa vie et vers la mission. Il a dit non, j'ai beaucoup de nouveaux amis qui sont maintenant chrétiens en Asie. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Il est resté. Il est même, il a même été à Bornéo pour fonder de nouvelles œuvres chrétiennes, faire connaître Jésus. Et il s'est fait prendre prisonnier par les Japonais. Et c'est pour ça qu'il est mort en 1945, durant la guerre. En fait, il est mort dans des circonstances assez terribles, dans un camp de prisonniers japonais. J'ai lu qu'il est mort de famine, parce qu'ils n'étaient pas tendres avec leurs prisonniers. Et c'était terrible, mais c'est lui qui avait... Il est conscient du risque, il est resté, et il est mort dans des circonstances très difficiles. Robert Jaffré, en laissant derrière lui beaucoup de nouveaux frères et sœurs organisés en Église dans plus qu'un pays en Asie. Oui. La famille Jaffré? Bien, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient dans l'Alliance chrétienne et missionnaire ou... Je ne sais pas. Peut-être que d'autres ont lu l'histoire. Je vais essayer de découvrir pour toi. Pousser ou appeler? Voyez-vous un peu l'idée? C'est que Robert aurait pu se laisser pousser par les désirs de sa famille, par des forces, des valeurs peut-être du monde qui lui avaient été enseignées et vivre cette vie. Mais pour lui, ayant rencontré Jésus, c'était une vie inférieure. Et il a choisi la vie supérieure, selon lui, selon nous, qui découlait de sa conversion du cœur au Seigneur Jésus, qui est venu à sa rencontre. Et il a vécu la vie d'un homme, d'une personne appelée. On va voir que dans l'histoire de Moïse, les deux mots s'appliquent également, l'histoire de ce matin. Alors, peut-être vous allez vous rire un peu intérieurement. C'est une photo qui vient du film dont on a vu un clip il y a deux semaines. Ça, c'est pas une vraie photo de Moïse. Ça, c'est un acteur, Charlton Heston. Mais bon, on n'a pas de photo de Moïse. Est-ce que Moïse était un homme poussé ou un homme appelé? Eh bien, au début de l'histoire qu'on a lue ce matin, Moïse est un homme poussé par des forces qui l'amènent dans des endroits qui causent des problèmes. Ici, il a des pulsions à l'intérieur de lui. Il a donc, d'un côté, cette éducation qui vient de sa maman, cette éducation d'Israël. Donc, ses valeurs, voilà, tu es un enfant descendant d'Israël, tu fais partie de ce peuple hébreu qui est esclave en Égypte. Puis en même temps, il reçoit l'éducation de la famille du Pharaon en Égypte, puisqu'il a été adopté par la princesse. Et cette éducation-là, j'imagine, c'est tu fais partie de la crème de la crème. Ce que tu veux faire, tu peux le faire. Mets-toi en action et les dieux, ils vont t'aider. Alors, beaucoup de confiance en lui-même. Et cette combinaison-là fait qu'il prend des initiatives. On les voit. D'abord, il sort pour voir ce qui se passe avec ses co-religionnaires hébreux. Il voit leur souffrance et puis il décide d'agir. Premièrement, il va utiliser la violence pour aider un hébreu qui souffre sous le fouet d'un contremaître. Il va le tuer et l'enterrer secrètement. Il imagine, les dieux sont avec moi. Et le lendemain, il essaye de faire la paix entre deux Hébreux qui se chicanent et ça ne marche pas. Il dit, avec quelle autorité tu fais ce que tu fais? Et il apprend que, oh, les gens savent que j'ai commis un meurtre. Il est pris de peur, il est pris de panique. Et il doit s'enfuir. Alors, autant, au début, il est plein de confiance en lui-même, sur ses projets à lui. Autant, quand ça devient difficile, il devient frustré et même, je dirais, il prend peur, il panique et il s'enfuit. Il s'enfuit où? Dieu, dans sa grâce, va l'amener dans un endroit où il va commencer à découvrir un appel. Dieu va l'appeler. C'était prévu que Dieu allait le préparer pour un appel. Où il va entendre la voix de Dieu, pas forcément une voix. Alors, dans le cas de Moïse, c'était une voix audible, mais l'appel de Dieu, ça peut être une voix inaudible aussi. Mais Moïse, lui, va se retrouver d'abord, avant de recevoir l'appel audible, qu'on va voir dans un prochain épisode, on le voit auprès de son beau-père Madian, de son beau-père Reuel, dans le désert de Madian. Et on voit en Moïse quelqu'un qui se calme, quelqu'un qui reconnaît, j'ai eu un échec avec mes initiatives à moi. Je dois me détacher de mon assurance en moi-même quand je vivais comme une personne poussée par des valeurs qui ne venaient pas de Dieu et qui me poussaient par en arrière. Il commence à développer une nouvelle attitude. En fait, il va passer beaucoup de temps à être le berger des moutons de son beau-père. Un travail calme, un travail humble, répétitif. Dieu va travailler dans son cœur, Dieu va le préparer pour entendre des paroles par rapport à sa vraie mission. Et il va y avoir un long délai, on l'a dit la semaine passée. Il a 80 ans quand commence son ministère en Égypte, auprès du Pharaon. Et c'est un ministère où il y aura beaucoup d'échecs, beaucoup d'opposition. Mais Moïse est prêt parce qu'il n'est plus poussé par ses propres ambitions ou celles de sa famille. Il est appelé par Dieu et il en est certain. Poussé ou appelé, Moïse est devenu un homme appelé. Et j'aimerais aussi mentionner un troisième mot. Donc, Moïse n'est pas poussé, il est appelé, aussi prédisposé et équipé. Donc, dans les deux histoires qu'on a parlé, Robert d'une part, Robert Jaffré, Moïse de l'autre, une fois que la personne se ménage, Dieu peut l'utiliser. Moïse était passionné pour la sécurité de son peuple hébreu et quand il va être appelé, cette même passion, Dieu va l'utiliser. Robert Jaffré avait une éducation d'un jeune homme riche de l'Ontario et il avait reçu de son père beaucoup d'expertise dans les négociations en affaires. Dieu va les utiliser, non pas pour les affaires, mais pour le travail de mission. Et donc, une fois que tu as ce changement de cœur, où tu n'es plus poussé par tes propres ambitions ou celles de ta famille, mais que tu es appelé, c'est merveilleux que Dieu va utiliser tes acquis, que j'appelle tes prédispositions ou tes outils, ton éducation et ainsi de suite. En fait, il y a une troisième histoire. Celle-ci aussi vient de la Bible. J'aimerais la mentionner parce que vous pouvez relire l'histoire dans 1 Samuel. La comparaison entre les deux premiers rois d'Israël. Le premier qui s'appelle Saül et le deuxième qui s'appelle David. Quand on compare les deux histoires, on remarque qu'il y a un contraste entre le roi qui marche comme quelqu'un de poussé par ses propres ambitions, Saül, et ça finit mal, ça finit dans l'échec total, et même dans l'aliénation par rapport à son Dieu, versus David qui, lui, marche comme un homme appelé du début jusqu'à la fin. Et c'est intéressant parce que Saül commence grand, fort, impressionnant. Et il est appelé par Dieu, mais il ne reste pas dans cette attitude. Il dérape vers, c'est mes motivations personnelles et aussi les valeurs que le peuple m'impose qui prennent le dessus. Et il commence à faire des bêtises et finalement, ça finit mal. Alors que David, lui, du début à la fin, c'est vrai que David a fait des grosses bêtises aussi, mais il revient toujours à l'appel que Dieu lui a donné de paître le peuple. Et on voit que plus il avance, plus il devient humble et plus il devient détaché aussi. Et quand tu es détaché comme ça, quand tu vis des échecs, tu ne deviens pas fâché, frustré, épeuré, mais tu dis, je vais marcher avec mon Dieu à travers cet échec qui, peut-être, est une victoire cachée derrière l'échec. Alors, la question pour nous ce matin, et pour toi et pour moi, lorsque je regarde ma manière de vivre ces temps-ci, est-ce que je vois en moi-même une personne poussée ou une personne appelée? Est-ce que tu es un Saül? Ou est-ce que tu es plus un David? Es-tu poussé ou es-tu appelé? Évidemment, pour être appelé, il faut que Dieu entre dans le portrait. Et peut-être que toi, tu te dis, mais moi, je me sens comme Moïse dans le désert. Je suis comme entre les deux. Je donne un exemple comme ça. Peut-être quand j'étais jeune, j'étais très sûr de moi. J'allais partir mon projet. J'ai rencontré des problèmes. Et maintenant, je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop quoi faire. Moïse était dans cette situation. Et ce qui est encourageant pour nous, c'est que le Dieu qui nous appelle est venu le rencontrer. Puis ça, on va voir ça dans une prochaine fois. Le Dieu qui appelle est venu l'appeler. Et c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour moi. Le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu qui appelle. Vous savez qu'une manière d'appeler un chrétien dans la Bible, c'est un appelé. Paul écrit parfois ses lettres, non pas aux chrétiens qui sont, par exemple, dans telle ville, à Corinthe, mais aux appelés. C'est une autre manière de dire un chrétien. Donc, toi, si tu es déjà chrétien ou si tu réfléchis à devenir chrétienne ou chrétien, ben là, il y a un appel de Dieu pour toi. Alors, c'est une question importante. Parlons un petit peu maintenant des chrétiens que nous sommes. Comment ça se présente pour nous, l'appel de Dieu? Lisons ce que dit la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il l'a fait pour former les saints. Ça, c'est un autre mot pour parler des chrétiens. Nous sommes tous des saints, des gens mis à part pour marcher avec Dieu. Et il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de la construction du corps de Christ. Éphésiens 4, 1 et 12. Alors, ici, on voit que nous sommes tous dans l'Église de Jésus, tous destinés à être des appelés. Dans le verset 11, Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui est monté aux cieux et qui ensuite appelle les individus un par un. Et Paul commence en parlant de ceux qui ont des ministères d'enseignement ou de leadership officiel. Il va nommer cinq ministères particuliers, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, est-ce qu'il y en a cinq? Oui. Prophètes, évangélistes, bergers, enseignants. Alors, eux, leur job, leur appel plutôt, c'est de former, d'enseigner, de mener, de nourrir qui? Eh bien, c'est dit dans le verset 12, nourrir les saints. Donc, tout le monde, Est-ce que c'est juste pour qu'il mange la bonne nourriture spirituelle? Non! Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces saints, S-A-I-N-T-S? Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aidez-moi. Ils vont servir. Et ils vont servir à quoi? À la construction ou l'édification, c'est synonyme, du corps de Christ. Et ça, corps de Christ veut dire la communauté de Dieu. Alors, donc, on peut dire qu'à mon niveau, à mon petit niveau, ouais, le Seigneur m'a donné le mandat de vous enseigner ce matin. Eh bien, en fait, nous sommes tous, moi y compris, un saint, mais toi aussi, et tu es en train d'être formé pour le service en vue de la construction de cette communauté. Voyez-vous, tout le monde a un rôle. Tout le monde va être ou est déjà appelé. Amen? J'ai entendu un amen. Yeah, merci beaucoup. Oui, donc c'est réjouissant. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a toutes sortes d'appels. Hein? Peut-être que tu te sens toute petite. Il y a vraiment un auditeur qui est enthousiaste. Et ça, j'aime ça. Alléluia! Peut-être que tu te sens toute petite. Je dis, ben moi, oh, je suis certainement pas un prophète. Et je sais pas, je me sens pas digne d'être appelé. Eh bien, tu te trompes. Oui. Sache que il y a des appels de Dieu de toutes sortes et de toutes les grandeurs. Il y en a des extra-larges, mais il y en a des extra-petits aussi. Mais ils sont tous aussi importants. Ils sont tous ainsi aussi importants. Et des fois dans la vie, si tu es fidèle avec un petit appel, eh bien Dieu va le grandir. Tu vas passer de petit à médium. Et peut-être un jour à large ou extra large. Bon, peut-être que mon analogie n'est pas fameuse, mais il y a toutes sortes d'appels et ils sont tous importants. Tous importants, on travaille ensemble pour bâtir la communauté de Christ. Et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous appelle. Beaucoup d'entre vous ont un appel de Dieu. Votre implication principale, en fait, elle est à l'extérieur de l'Église. Il ne faut pas négliger votre travail que nous, on appellerait séculier, votre travail non d'Église dans le monde. Et c'est aussi un appel de Dieu. Quand je suis devenu pasteur, perspective. Vous savez, mes filles me taquinaient quand je suis devenu pasteur. J'ai dit, bon, père, c'est un chrétien qui a une job de pasteur. Mais c'était pour taquiner. Donc, être pasteur, c'est une vraie job. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que si tu es employé dans une usine, si tu es préposé ou bénéficiaire dans un CSHLD, si tu fais l'entretien dans une école, si tu es infirmière dans un hôpital ou dans une urgence, si tu es ingénieur dans une entreprise privée, pose-toi la question, comment est-ce que Dieu m'appelle ici dans ce travail pour faire avancer son évangile, faire avancer son œuvre, être un témoin de Jésus-Christ là où je suis, et aussi être le gérant, la gérante de choses du monde qui sont importantes pour Dieu. Vous savez que votre appel peut aller jusqu'à la mission dans un autre pays. C'est ce qui est arrivé à Robert Jaffré. Parfois dans l'Église, on accepte que Jésus m'appelle à être chrétien, mais on embarque dans la construction de l'Église ou de la famille de Dieu comme une personne qui est encore poussée, quelqu'un qui développe ses propres projets et puis qui dit, voilà, suivez-moi, j'ai vraiment une bonne idée, puis j'ai les qualifications, puis je vais développer tel projet. Et quand on fait cela, et ça m'est déjà arrivé, eh bien, ce qui peut arriver, c'est qu'on frappe un mur, parce que la communauté nous dit, mais en fait, ça ne vient pas nécessairement de Dieu, ce projet. On l'a essayé et ça ne marche pas très bien. Et on apprend, chacun de nous, à ne plus marcher comme des hommes et des femmes poussés, mais à être des hommes et des femmes appelés, des gens qui sont à l'écoute du Seigneur en tout temps et qui sont plus détachés, qui sont sereins, patients, qui marchent à l'écoute de leur Dieu. En gros, c'est ça que je voulais vous dire ce matin par rapport à ce passage où on voit Moïse, c'est juste une petite partie du passage, mais je trouve que c'est important. Moïse change d'attitude. Et on va voir dans le chapitre 3, il va rencontrer Dieu. Et Dieu va vraiment lui dire, mais voici la mission à laquelle je te prépare. Donc maintenant, pour terminer, j'aimerais qu'on prie ensemble. Et j'ai écrit une prière ici pour une personne ou des personnes qui voudraient devenir une personne moins poussée par leurs propres valeurs et ambitions et demander à Dieu la grâce d'entendre un appel. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être que tu te sens frustré avec ta vie parce que tu as eu des échecs, tu avais des rêves qui se sont pas accomplis. Tu es peut-être comme Moïse dans le désert. Mais je t'invite à prier avec moi maintenant pour demander au Dieu qui appelle de te donner cette grâce d'entendre, de percevoir cet appel pour toi dans ta vie. Et ça, comme j'ai dit, ça peut être quelque chose de simple, ça peut être quelque chose de gros, ça peut être entre les deux. Et si tu sens vraiment que, waouh, c'est vraiment la prière pour moi ce matin, j'en ai vraiment besoin, je te demande ou je t'invite à te lever debout. Tu n'es pas obligé, tu peux rester assis, mais ça peut être comme ton geste pour dire, Seigneur, je n'ai pas peur de dire que je veux entendre ton appel pour ce moment-ci dans ma vie. Alors, on va prier maintenant. Tu peux te lever si tu veux. Merci d'être un Dieu sauveur. Merci que tu es un Seigneur qui va plus que juste nous sauver. Tu vas plus loin. Tu nous donnes une nouvelle vie basée sur ton appel. Merci, Seigneur, de nous sauver de nous-mêmes. On est parfois enchaînés par ce que notre famille veut de nous. Des valeurs qu'on a appris dans la société, que tu veux qu'on apprenne à mettre de côté pour avoir tes valeurs. Seigneur, ce chant de tantôt, Seigneur, je te donne tout, je te donne mon cœur, eh bien, c'est ça, c'est être libéré de ces chaînes pour être prêt à entendre ta voix. Et nous voulons. Je veux te donner mon cœur. Merci d'être ce Dieu qui m'appelle. Merci d'avoir appelé Moïse, Robert Jaffré, David. Même Saül, tu l'as appelé. Mais je ne veux pas être comme Saül. Je veux être comme ceux qui ont appris à vivre et à rester dans ton appel. Oui, Seigneur, fais de moi une personne appelée. Au nom de Christ. Amen.